Est-ce que vous vous situez dans le prolongement de travaux un peu plus anciens? Je pense aux travaux de Viviane Isambert-Jamati sur le fait que les pédagogies implicites sont toujours des pédagogies sélectives et qu'il faut toujours expliciter si on ne veut pas être sélectif socialement. C'est un peu quand même, j'allais dire, sous-jacent dans votre propos.
C'est plus que sous-jacent, c'est explicite. La référence au travail de Viviane Isambert-Jamati est explicite chez nous. Alors, Viviane est d'ailleurs une des rares sociologues françaises qui, dès les années 70-80, s'intéresse
à cette question.
À cette question et au concret des manières de transmettre ou d'apprendre des savoirs dans l'école. Une autre référence explicite pour nous, c'est le sociologue anglais Basil Bernstein qui travaille ces questions-là, y compris d'ailleurs parfois de manière un petit peu polémique ou en débat avec le travail de Bourdieu. Donc c'est très explicitement cette filiation-là que nous essayons de faire vivre, tout en sachant que la question de l'explicitation est compliquée, parce qu'il ne suffit pas d'expliciter en parole. Voilà. L'explicitation, voilà. C'est de pouvoir faire que les élèves éprouvent.
Et qu'ils soient dans des situations voilà. explicites, voilà. pas simplement devant des propos explicites.
Voilà.
Je crois que c'est
tout
important
fait.
Pour
ça,
vous.
Ça, c'est très important, parce qu'on peut avoir des discours qui coexistent avec l'enfermement dans des
Absolument.
Tâches et qui ne sont d'aucune utilité, même s'ils permettent de dire qu'on a explicité.
On peut avoir des sortes de discours qu'on développe pour justifier en permanence, pour répéter en permanence, mais maintenir des tâches qui sont, elles, enfermantes.
Des tâches ou des consignes. Et puis, simplement, je crois aussi que nos travaux montrent que, à tâches ou consignes équivalentes, les situations sont toujours réinterprétées par
C'est
les
ça.
élèves. Et qu'il me semble que ce qu'il faut essayer de développer chez les enseignants, c'est une vigilance à cette hétérogénéité des manières de faire des élèves qui sollicite toujours l'explicitation, les postures secondes ou réflexives dont on parlait chez les élèves, au lieu de se satisfaire parfois de traces d'activités qui ne disent pas comment l'activité a été conduite. Je pourrais donner des tas d'exemples de situations de classe où les élèves parviennent au résultat attendu sans avoir fait le travail que l'enseignant présuppose nécessaire pour parvenir au résultat attendu.
Absolument. Alors, il y a des attitudes de divination, il y a des attitudes de débrouillardise, mais tout ça ne signifie pas qu'il y a travail intellectuel.
Ce sont dans des micro-différences comme ça que l'on voit des récurrences de différences entre élèves qui vont construire l'inégalité et que l'on voit que la vigilance de l'enseignant doit être extrême et que, on pourrait dire, l'enfer se niche dans les détails. Et c'est dans la vigilance à des détails comme ça, peut-être plus, que dans l'explicitation des consignes, que les liens entre les tâches peuvent se construire pour arriver à reconnaître ce registre qui les unifie dont je parlais tout à l'heure.
Votre collègue Elisabeth Bottier, avec qui je crois vous avez beaucoup travaillé, a récemment publié sur l'école maternelle et évoque cette espèce de suractivité dans laquelle on met parfois les enfants au détriment de la posture seconde ou réflexive.
Tout à fait.
Vous partagez cette conception-là ?
Je partage complètement. Ce travail a été fait aussi par Sylvie Seb dans sa thèse en psychologie sur l'école maternelle. Mais je crois que cette suractivisation, ou peut-être cette idéologie de l'activisme ou de l'activité mal pensée, est peut-être une manière dont la critique de l'école un peu traditionnelle, un peu transmissive, s'est réorientée. Et on a un peu de symétrie, quoi. Je crois qu'on ne sortira pas d'une école dogmatique traditionnelle par une école activiste qui ne pense pas le registre propre aux apprentissages, par-delà la diversité ou même l'attractivité des activités. Donc on a parfois le souci de proposer plein de choses aux élèves, voire de leur proposer les choses les plus attractives, mais si ce souci est déconnecté du souci de leur faire reconnaître, toujours dans les deux sens du terme, les registres de savoir propres qui vont unifier les activités qu'on leur propose, le risque est de remplacer un mal par un autre mal.
De remplacer au fond le dogme par du bricolage, mais sans jamais atteindre à ce qui est la véritable activité mentale. Donc oui
fait.
Pour l'activité, mais dès lors qu'on est attentif à l'activité mentale, à ce qui se passe pour l'élève, non pas simplement dans la classe, mais dans sa tête.
Tout à fait.
Hein, voilà. Ce qu'il est en train de comprendre.
Ce qui n'est pas très simple, parce que ça ne se voit pas ce qui se passe dans la tête. Mais ce qui veut dire la vigilance sur l'activité, sur les gestes, toutes ces choses-là, et vigilance sur la régulation, sur ce qu'on attend des uns et des autres, y compris sur l'ordre dans lequel on les fait parler.
Absolument.
Alors, c'est tout à fait. On a fait la classe à une expérience, elle a fait une sortie, etc. Et le maître, dans la classe, en appelle au souvenir des élèves pour raconter ce qui se passe. S'il n'est pas suffisamment attentif, on voit très bien que les meilleurs élèves vont parler en premier et vont mobiliser les souvenirs les plus facilement mobilisables. Et ceux qui vont venir après, qui sont moins portés à prendre la parole, etc., vont avoir une tâche plus difficile à faire, puisque ce qui était le plus facile à dire a déjà été dit. Et donc, très vite, le maître peut en conclure que ses élèves ne se souviennent pas, ou n'ont pas été attentifs, ou n'ont pas les capacités mémorielles, etc., alors qu'en fait, la situation a changé, sans qu'ils s'en rendent compte, au fur et à mesure que les premiers ont parlé, et la situation est plus difficile, et on va mettre au compte des élèves ce qui est au compte d'un changement de situation que le maître n'a pas. Auquel le maître n'a peut-être pas été suffisamment attentif. Donc des exemples comme ça, on peut en donner à foison, qui montrent que les différences, les petites différences qui vont produire des grandes inégalités, se construisent souvent dans des détails, et dans des détails qui sont parfois un peu éloignés des querelles d'école un peu dogmatiques sur l'enfant au centre ou le savoir au centre, la transmission frontale ou le travail de groupe ou des choses comme ça, qui sont pas le plus intéressant si on ne les pense pas en rapport avec l'activité intellectuelle.